Madame Campagna, chaque jour, on épluche nos légumes et on ne le sait pas, mais on a entre les mains un outil qui a fait date.
Oui, c'est un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir dans
Voilà.
la pièce de Molière. Mais aujourd'hui, je rassemble en fait deux sujets que je mijotais. Tiens, pour rester dans
On est dans la cuisine.
pour rester
Ouais.
dans la cuisine depuis un moment. J'avais écouté un passionnant podcast balado américain qui s'appelle 99% Invisible, qui est sur le design. Et on avait consacré un épisode au Curb Cut Effect, que je vous expliquerai dans un moment. Et j'avais vu passer une vidéo qui expliquait, sans nommer le nom de la compagnie, l'histoire des ustensiles de cuisine OXO Good Grip, qui est aussi relié au design universel. Et je vous ai mélangé ça aujourd'hui dans une chronique.
Parfait. Alors, on a lié la sauce.
Voilà,
Mais
pour
ça a un
un.
thème commun, c'est qu'il y a plein de petites choses dans la vie quotidienne qui aujourd'hui passent inaperçues, mais qui ont une historique d'accessibilité.
Voilà. Tout d'abord, peut-être rappeler la différence entre la simple accessibilité et le design inclusif ou l'accessibilité universelle. Quoi qu'il y a, bon, certains font des nuances même entre ces deux-là, mais on n'ira pas jusque-là. Mais si on se réfère au site d'un organisme bien de chez nous, la Société Logique, le design universel, il propose une variété de solutions simples et esthétiques et des aménagements, des objets de qualité qui tiennent compte des besoins de tous, incluant les personnes qui ont une limitation fonctionnelle. Par exemple, une bibliothèque qui a une entrée de plein-pied. Aucune marche. Alors, pas des marches avec une rampe à côté. Tout
Mais plein pied
simplement,
pour tout le monde.
voilà, exactement. Alors, tout le monde rentre par la même porte, ce qui est un petit peu l'inspiration du nom de notre émission d'ailleurs. Sans détour, personne ne fait de détour.
Exact.
Et là, je vous amène à ce qu'on appelle parfois ici les bateaux pavés, ce qu'on appelle en anglais des curb cuts. Bon, il y en a depuis un bon moment. On dit qu'aux États-Unis, les premiers ont été installés au Michigan en 1945 pour aider les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale à se déplacer dans la ville.
On parle tout simplement de la rampe qui fait qu'au coin de la rue, le trottoir descend au niveau finalement de l'asphalte, tout
Exactement.
simplement pour faciliter, un peu comme une petite entrée de garage.
Exactement. D'ailleurs, on utilise le même nom en anglais pour désigner. Non, c'est quand je disais sur les bateaux pavés qu'on utilise aussi ce nom en France pour. Justement, dans les quartiers résidentiels, dès qu'il y a une entrée, le trottoir descend, on utilise le même terme. Mais dans les années 60 à Berkeley, il y a ce qu'on a appelé le Curb Cut Movement. C'est des groupes d'activistes. Il y avait entre autres parmi eux M. Ed Roberts, une personne en situation de handicap, qui allait la nuit démolir des coins de trottoir.
Avec au pic et à la pioche,
Et oui.
ils allaient couper leur propre petite descente de trottoir.
Ben, ils mettaient du ciment aussi pour en faire un curb cut, donc une petite descente qui était praticable par tout le monde. Et bientôt, ça va mener au premier programme de bordure de trottoir là, officiel dans une municipalité qui est dans la ville évidemment de Berkeley. Le 28 septembre 1971, la ville a fait officiellement une politique de rendre les rues et les trottoirs accessibles aux personnes handicapées dans les principales zones commerciales là, dans un premier temps. Donc, à mesure que ces descentes de trottoirs se sont multipliées un peu partout, ben, on finit par faire partie du paysage normal d'une ville. On pourrait dire faire partie des meubles.
Ben, oui, tout à fait, parce que on a de la difficulté à concevoir que ça puisse ne pas exister. Mais si on visite des régions, des contrées où l'accessibilité universelle n'est pas encore partie de la culture, on fait le saut un peu quand on tombe de 8 pouces dans la rue.
En fait, même ici, souvent, elles sont abîmées. Il y en a qui sont rendues presque inexistantes. Et quand on n'est pas une personne en situation de handicap, le moment où on les remarque, c'est quand on se promène avec une poussette, notamment. Moi qui n'ai pas d'enfant, mais qui n'ai pas d'auto non plus, c'est avec mes valises à roulettes que je les remarque. Et quand je me promène avec une valise à roulettes, c'est comme si je faisais tout d'un coup l'inventaire des bateaux pavés de mon quartier entre chez moi et le métro. Et là, on se rend compte qu'il y en a d'abîmés ou qu'il y en a qui accumulent l'eau quand il pleut ou quand il y a de la fonte des neiges. Alors, c'est à ce moment-là qu'on s'en rend compte, mais sinon, on les oublie parce qu'elles sont devenues utiles pour beaucoup plus de gens
Que l'intention première.
Exactement. Alors, on a donné chez les Anglo-Saxons un nom à ce phénomène-là, c'est le curb cut effect, quand une chose qui a d'abord été conçue pour l'accessibilité devient utile au plus grand nombre. On peut penser par exemple aux sous-titres dans les vidéos en ligne. Elles permettent aux personnes sourdes de comprendre le contenu de la vidéo, mais elles sont aussi utilisées par les gens qui utilisent leur téléphone dans le métro. J'ai vu passer des témoignages sur Internet dans une discussion sur ce sujet-là, par des mères qui allaitent et qui se promènent sur Internet la nuit, qui ne veulent pas réveiller leur enfant. Et évidemment, des personnes les utilisent pour regarder discrètement des vidéos au bureau.
Ah ben c'est sûr, parce que là, on a tout, les gens dans le cubicule d'à côté n'ont pas besoin de se taper tout le clip musical ou d'autres choses qui pourraient être encore plus gênantes.
On peut penser aussi aux sous-titres à la télé qui permettent d'écouter la télé moins fort quand les enfants sont couchés, de comprendre les acteurs qui ont une prononciation un peu molle ou ceux qui ont un fort accent. Elles sont aussi fréquemment utilisées dans les restaurants et les bars sur les écrans. Et personnellement, je les utilise régulièrement quand j'écoute des séries ou des films en version originale anglaise, là, s'il y a du vocabulaire un peu plus pointu, par exemple. Ça me permet de rien échapper. Les ascenseurs dans le transport en commun sont utiles aux aînés, encore une fois, aux poussettes, aux porteurs de valises. La COVID aussi...
Les ascenseurs ne sont pas encore trop... Enfin, ça commence, oui.
Quand il y en a, évidemment. Voilà. Mais on peut penser que sur le plan environnemental, si ça peut convaincre une famille qui a des jeunes enfants qui utilisent une poussette de ne pas s'acheter une voiture en ville, s'il y en avait plus, les bénéfices sont là aussi.
Ça me fait penser aux barres d'appui dans les longs corridors ou dans le métro, entre autres ici à Montréal, oui. Berry-UQAM, quand il y a vraiment des distances à parcourir à pied. Et le long des murs, il y a comme des spaghettis en chrome sur lesquels on peut s'appuyer quand on est un peu fatigué.
Exactement. Et puis la COVID aussi a rendu certains éléments d'accessibilité utiles à tous. Quand vous avez des portes automatiques ou des portes qui s'ouvrent avec un bouton qu'on est capable d'actionner avec le coude ou ses hanches, bien, on évite de toucher la même poignée que toutes les personnes qui sont passées avant nous. Elles sont aussi pratiques lorsqu'on transporte des sacs, un repas ou des enfants. Il y a des exemples plus subtils. Sur le web, par exemple, les descriptions alternatives pour les images ou la description adéquate des boutons, des menus et compagnie sur les sites web, ça aide les personnes qui utilisent un lecteur d'écran, mais aussi ça aide les moteurs de recherche à bien recenser votre site web et son contenu.
Il y a des choses simples aussi. Je ne sais pas, dans les nouvelles maisons, on n'a presque plus de poignées de porte qui sont des
poignées
gros
rondes,
boutons
là.
Ronds. Mais maintenant, c'est comme des becs de canard. Qui sont plus faciles à manier pour des personnes qui ont des problèmes de préhension parce qu'on peut simplement s'appuyer sur le bec de canard pour le faire pivoter et ouvrir la porte.
Et on en a déjà parlé avec les gens de Société Logique, un condo ou une maison qui est conçue de façon à être progressivement adaptée peut permettre à une personne d'habiter plus longtemps au même endroit, ce qui n'est pas un détail avec le vieillissement de la population. Mais là, c'est le temps d'arriver dans la cuisine avec... ce que j'ai appelé du design universel dans vos tiroirs de cuisine, les produits OXO Good Grip. Parce que tout commence avec un retraité qui s'appelait Sam Farber, qui avait lancé une entreprise qui fabriquait des bouilloires à thé, des articles ménagers. Il prend sa retraite, mais il trouve ça difficile. Il a la bougeotte, il songe déjà à retourner en affaires. Et c'est en regardant sa femme faire une tarte aux pommes qu'il va avoir son idée de génie.
Son épiphanie.
Oui, son épouse faisait de l'arthrite et se plaignait que son économe, cet instrument qui sert à éplucher les pommes ou les carottes ou les patates, lui faisait mal aux mains. Vous savez, ce vieux modèle...
Avec la poignée, ça ressemble un peu à un violon.
Oui.
C'est comme deux lattes de métal qui sont face à face. Et ça fait mal partout, ça se tient pas bien. Puis on a l'impression que la lame pivote tout le temps. Puis enfin, c'est très mal fait. Enfin.
Et c'est là qu'il a compris qu'il avait une opportunité de fabriquer un nouveau produit parce que, selon lui, rien n'avait été réinventé de manière sérieuse dans le domaine des gadgets de cuisine. Il y avait des modèles bon marché ou des modèles plus chers, mais qui se distinguaient seulement parce qu'on utilisait un matériau qui valait plus cher, mais pas nécessairement parce qu'ils étaient mieux conçus. Alors, et dès le début, il va aller du côté du design universel. Il ne voulait pas que son nouvel outil se retrouve dans un catalogue de produits spécialisés pour personnes en situation de handicap pour des raisons d'affaires. Et pour le public aussi, il voulait que le produit soit facile à trouver et qu'il ne soit pas trop cher.
Que ce soit grand public.
Exactement, parce que sinon, ça aurait été hors de prix si le marché avait été trop petit. Alors, il a travaillé quand même avec l'American Arthritis Foundation pour développer un manche confortable, facile à manipuler, qui va devenir ce fameux manche en caoutchouc noir qui fait aujourd'hui la distinction là, de tous ces produits OXO Good Grip. Parce que la compagnie a depuis lancé de nombreux produits.
Il y a des spatules, il y a des ouvre-boîtes.
Oui, et facile à tourner quand même aussi. Donc, c'est vraiment à ça qu'on les distingue. Ça a été beaucoup copié aussi là, par d'autres compagnies.
Oui, tout à fait. Il y a dans le design, c'est une sorte de caoutchouc, mais qui est quand même un petit peu plus mou que du caoutchouc. C'est pas trop dur, ça se tient bien. Et il y a des petites rayures. Là, on mettrait le pouce et le côté de l'index pour donner un petit peu plus d'appui.
Mais ils ne se sont pas arrêtés à ce design-là. C'était la première compagnie à sortir une essoreuse à salade à piston avec le bouton qu'on pèse sur le dessus au lieu d'essayer de tourner une manivelle.
Et se défaire l'épaule.
Ils ont créé des tasses à mesurer qui sont conçues de manière qu'on n'a pas à se pencher pour regarder la tasse sur le côté pour voir les mesures. Il y a comme une mesure à l'intérieur qui est comme en pente et que vous pouvez donc regarder votre tasse à mesurer du haut sans avoir à vous pencher et vous voyez progressivement
la
montée de la mesure.
Vous essayez de la soulever sans la renverser parce qu'on a, on a calculé tout juste une tasse. Voilà.
Voilà, et elles sont en plastique, elles sont légères. Elles ont par contre une poignée caoutchoutée qui se tient bien. Alors, c'est vraiment une compagnie qui a continué d'innover de ce côté-là. Et son économe, le premier instrument, a été intronisé dans la collection permanente du MoMA en 1994. Et près de 3 décennies après sa sortie, c'est un instrument qui conserve une note de 4,8 étoiles sur 5 pour les clients sur Amazon.
C'est difficile. Il y a une forme de reconnaissance de la perfection. Là. C'est difficile d'améliorer quelque chose qui est simple et bon. Et donc, on est parti de l'épouse de M. Farber qui faisait des tartes aux pommes. Essayer de régler un problème de manutention pour l'arthrite, puis on se retrouve avec quelque chose qui fait l'affaire de tout le monde.
Exactement. Donc, la prochaine fois que vous épluchez vos patates avec un outil confortable, remerciez le design universel.
Voilà. Et il y a des beaux exemples. Vous parliez de bibliothèque tout à l'heure. La bibliothèque de Ville-Saint-Laurent, je pense, c'est un exemple de design universel qui est vraiment chouette parce que des gens avec toutes sortes de situations ou aucune situation peuvent y être confortables. Ben voilà.
La bibliothèque Raymond Lévesque aussi à Saint-Hubert.
C'est juste.
C'est un bel exemple.
Ben, merci beaucoup, Mme Campagna.
Je vous en prie.
On va espérer que cette universalité continue de se répandre et qu'elle devienne justement universelle, c'est-à-dire pas uniquement des objets de curiosité qui déparent le mobilier urbain, mais en font un endroit plus agréable pour tous. Voilà. On se reparle tout à l'heure pour une revue de presse?
Oui, tout à fait. À tout à l'heure.
Merci.